Les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Ronan Raffray, professeur de droit à l'Université de Bordeaux, nous dessine les contours du droit de la vigne et du vin. Premier épisode, qu'est-ce que le droit de la vigne et du vin ?
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
Bonjour à tous. Chers auditeurs d'Amicus Radio, je suis très heureux d'intervenir aujourd'hui pour vous parler de cette très belle matière. Quel droit de la vigne et du vin ? Et pour débuter, je vais poser 3 questions. Puis-je commercialiser un vin bleu ? Qu'est-ce qu'un vin naturel ? Peut-on fabriquer un vin rosé en mélangeant un vin rouge et un vin blanc ? À ces passionnantes questions, le droit de la vigne et du vin apporte de subtiles et parfois étonnantes réponses, et c'est ce que je vais essayer, finalement, de vous montrer au cours des 5 présentations qui viennent. Pour ouvrir ce cycle, j'ai choisi de répondre à une question simple, mais que l'on me pose assez souvent. Mais en fait, c'est quoi le droit de la vigne et du vin ? Je dois bien avouer que la matière demeure confidentielle, du moins dans les facultés de droit, ce qui contraste forcément avec les 13 milliards d'euros annuels de chiffre d'affaires que pèse la filière française et les 500 000 emplois directs et indirects qu'elle génère. Le droit de la vigne et du vin est aussi, et cela ne facilite pas du tout son identification, une matière fragmentée, éclatée, atomisée, dirait-on aujourd'hui, puisqu'elle rassemble des règles diverses, éparses et particulièrement nombreuses. La France est en effet le pays qui réglemente le plus, dans le monde, la production vitivinicole, et pas toujours, il faut bien le dire, de manière très ordonnée. Pour arriver néanmoins à une présentation que j'espère efficace de cette matière, je vous propose de cumuler 2 approches. Une approche académique, fidèle à la notion de branche du droit, et puis une approche que je dirais substantielle, qui décrit le droit de la vigne et du vin par ses contenus. Dans une perspective académique, une branche du droit est une partie du droit qui provient d'une division qui résulte à la fois de la codification, des textes, de la pratique et des enseignements universitaires. Bon, côté codification, je n'aurais pas de mal à trouver un code du vin créé en 1936 pour répondre à la complexité du statut de la viticulture et qui réunissait à l'époque 80 textes, ordonnances, lois, décrets-lois, règlements, arrêtés, relatifs à la définition, à la production, aux importations, au commerce et à la circulation du vin. Ce code a été abrogé en 2003. On comptait, comme je l'ai dit au départ, 80 textes, mais le décompte serait plus difficile aujourd'hui et le code bien plus volumineux. La recherche par le mot-clé vin donne en effet 5147 résultats sur Légifrance et 622 pour le mot vigne. Si je me tourne maintenant vers la pratique, je trouverai sans trop de mal des avocats spécialisés qui vont porter les litiges en droit des marques viticoles ou en droit des baux ruraux, comme je trouverai, sans autre difficulté, des notaires fins connaisseurs des enjeux de la transmission familiale des exploitations. Mais j'insiste sur un point, c'est que, finalement, bien au-delà des seules professions juridiques, de nombreux professionnels appliquent le droit des appellations d'origine dans les syndicats viticoles, vont contrôler la fiscalité viticole au sein des services de l'État, vont assurer la veille et la défense des marques de vin chez des conseils en propriété industrielle. Et tout cela applique aussi quotidiennement des dispositions de droit viticole. Au niveau des enseignements, maintenant, on attribue à Robert Tinlot le premier cours de droit de la vigne et du vin en 1971, et depuis, se sont créés des diplômes de droit de la vigne et du vin dans les facultés de droit, comme à Bordeaux en 1985. Il en existe aujourd'hui plusieurs en France et dans le monde, et je viens d'apprendre, par le réseau de l'Association internationale des juristes de droit de la vigne et du vin, la nouvelle de la création du premier cours de droit viticole d'Argentine à l'Université de Mendoza, au cœur de l'Argentine viticole. Quant à la recherche en droit viticole, ce qui va retenir notre attention et fournir des repères, ce sont les dates d'édition des premiers manuels, qui sont, comme chacun sait, et finalement les œuvres de doctrine les plus utiles. L'étude de Jean Rosier, intitulée « Code du vin », est parue en 1957 et son manuel de droit de la vigne et du vin, rejoint depuis par d'autres, a vu le jour en 1978. Ce cadre académique étant posé, intéressons-nous à ce que contient cette branche du droit en prenant appui sur les constantes historiques de cette législation. Et oui, comme le dit mon collègue Olivier Serra, grand spécialiste de l'histoire du droit viticole, l'histoire serait sans doute la meilleure voie pour comprendre l'esprit et la genèse du droit de la vigne et du vin, notamment pour en apprécier les multiples dimensions et peut-être aussi pour répondre à cette question fondamentale. Pourquoi le vin mérite-t-il une législation spéciale ? Sur le plan historique, le vin est lié au sacré. Il est aussi un produit de très grande consommation, car les vertus antiseptiques de l'alcool en font une boisson plus saine que l'eau. C'est donc une très grande richesse, et je précise que pour certaines régions, c'est d'ailleurs la seule. Qui dit richesse, dit fiscalité. Richesse et fiscalité exposent particulièrement le vin à la fraude. Produit de civilisation, richesse commerciale de premier ordre, risque de fraude, on ne doit pas s'étonner que l'attention des pouvoirs publics ait toujours été au rendez-vous, avec une certaine constance, on va le voir dans les objectifs. La régulation et le contrôle du marché sont absolument essentiels, qu'il s'agisse de limiter les plantations, pour faire coïncider l'offre et la demande, de percevoir les taxes et de lutter contre la fraude. La question de la qualité apparaît également comme première. La qualité, c'est un critère de distinction entre les vins de consommation courante et les crus, ces vins de qualité qui méritent une protection particulière. Pour en décrire le contenu, je dirais qu'on peut comprendre le droit de la vigne et du vin comme une branche du droit qui calque son contenu sur un cycle vertueux qui trouve à ses deux extrémités la conduite de la vigne et la consommation de vin. Le droit de la vigne va tout d'abord s'appuyer sur le droit rural pour régler la question essentielle de l'occupation et de la mise en valeur du sol, c'est-à-dire que le juriste en droit de la vigne mettra en œuvre le droit des baux ruraux et celui des groupements agricoles. En réalité, le droit de la vigne ne va devenir autonome à l'égard du droit rural qu'à partir du moment où il considère le vin qui sera produit. Apparaissent alors les autorisations de plantation, sorte de quota de plantation pour gérer le potentiel de production, ou encore la réglementation des cépages, ces variétés de vignes que l'on a le droit ou pas d'utiliser. La question du moment, c'est l'adaptation des cépages pour diminuer l'usage des pesticides et s'adapter enfin au réchauffement climatique. Viendra ensuite la question centrale de la définition du vin, qui s'accompagne forcément de questionnements sur les pratiques œnologiques admises. Puis-je faire tremper des copeaux de bois ? Puis-je utiliser des colorants ? Tout ceci est particulièrement encadré par les textes et contrôlé par les services de l'État pour protéger les intérêts des producteurs comme des consommateurs. Il faudra enfin exprimer juridiquement l'objectif qui domine toute la production viticole, promouvoir des vins de qualité. C'est la raison d'être des signes officiels que sont l'appellation d'origine protégée et l'indication géographique protégée, signes de qualité du terroir, sur lesquels nous reviendrons dans les prochaines semaines. La valorisation du vin passe aussi par la marque de vin qu'il faut déposer et défendre contre les contrefacteurs de tous bords et par la publicité, en respectant très rigoureusement les dispositions de la loi Evin qui sont aujourd'hui insérées dans le Code de la santé publique. Deux exemples pour illustrer, chers auditeurs, l'éclectisme de la matière. Pour montrer l'extrême réglementation du produit, sachez que le droit de l'Union européenne définit 17 catégories de vins et produits de la vigne, du vin au vin de liqueur en passant par la piquette. La piquette est obtenue par l'essivage du marc de raisin, le résidu du pressurage des raisins, avec de l'eau. Lorsque la législation nationale permet l'élaboration d'une telle boisson, elle est réservée à la consommation personnelle et familiale du viticulteur. Pour vous convaincre maintenant de la subtilité de la matière, essayez de vous rappeler votre dernier repas au restaurant et souvenez-vous de l'attitude du sommelier qui vous a fait goûter le vin avant de le servir. En agissant de cette manière, le sommelier met en œuvre l'article 1587 du Code civil qui dispose qu'à l'égard du vin, de l'huile et des autres choses qu'on ait dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées. Puis-je retourner la bouteille si le vin ne me plaît pas ? Dois-je plutôt faire état d'un défaut objectif, tel un goût de bouchon pour que le sommelier l'écarte ? Si vous cherchez la réponse en mobilisant vos souvenirs de droit civil, ou à défaut votre bon sens, vous êtes mûr pour un deuxième format de droit de la vigne et du vin.
Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.